Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro, et oui déjà, du JT du Retro Gaming. Ce mois-ci, on découvrira dans le dossier la Retro Gaming Connection. On découvrira un nouveau mot avec notre Retro Dico, bien sûr le test de Mea, et puis deux nouvelles rubriques ce mois-ci avec la rubrique console et la vidéo du web. Mais on commence bien sûr avec les news. Nous vous l'avions annoncé lors du premier numéro du JT du Retro Gaming, SNK Playmore va sortir une nouvelle console baptisée Neo Geo X. Elle sortira le 18 décembre. Le constructeur japonais vient d'annoncer un stock de 2000 consoles pour la France. Cocorico, pour 199€, nous aurons droit à la console bien sûr, son socle de recharge, un stick arcade et puis 20 jeux de légende préinstallés. Aussi en bonus, le jeu Ninja Master. Jetez-vous dessus, il n'y en aura pas pour tout le monde en précommande chez Acrodeal ou Micromania. On continue tout de suite avec les news en images.
Guess Force est un shoot'em up 3D initialement prévu sur Dreamcast, dont le développement a été douloureux. Ce clone de Starwing a été présenté en 1998 lors du Tokyo Game Show, mais n'a jamais été finalisé. Pour éviter qu'il ne tombe aux oubliettes, des membres du forum Assembler Gamer ont rassemblé suffisamment d'argent pour acheter le prototype terminé à 80% et le faire sortir sur support physique. Encore plus fort, ils viennent de nous faire la surprise de mettre en libre téléchargement ce prototype que vous pouvez maintenant graver et lancer sur votre console. Nous ne pouvons que remercier Assembler Gamers pour leur implication dans ce projet. Another World est un jeu d'action-aventure sorti il y a déjà plus de 20 ans, mais qui reste une référence intemporelle pour son approche cinématographique et ses graphismes à base d'images vectorielles. Il est sorti sur de nombreux supports, Amiga, Atari ST, PC, Super Nintendo, Mega Drive, 3DO, et a même été réédité sur PC à l'occasion de son 15e anniversaire. Son développeur de génie, Eric Chahi, a accepté le portage de cette merveille sur la console 64 bits d'Atari, la Jaguar, par des programmeurs français nommés Removers. Ce portage est actuellement en précommande pour 60€ et sera diffusé sur cartouche. Another World ne cessera pas de nous faire rêver. Le développement indépendant fournit régulièrement des pépites dans le monde des jeux vidéo. Une mode actuelle est ce que l'on appellera le néo-rétro gaming, c'est-à-dire faire du nouveau avec de vieux concepts. Les derniers jeux développés par Loco Malito en sont sûrement le meilleur exemple puisqu'ils s'inspirent du standard de l'arcade des années 80 et 90. Son prochain jeu, Maldita Castilla, s'inspire librement de références comme Ghost and Goblins, Tiger Road, Black Tiger ou Shinobi. Ce mélange de plateformes et d'action à la jouabilité arcade sera téléchargeable gratuitement pour l'hiver 2012 sur PC.
The legend begins long ago.
Jordan Mechner sortit Karateka sur Apple II en 1984. Ce jeu de combat mettait en scène un karatéka devant éliminer ses adversaires un à un afin de tuer le boss et capturer sa princesse. Malgré sa durée de vie assez faible, Karateka impressionné par la fluidité de ses animations et la qualité des combats. Jordan Mechner a sorti une version remise au goût du jour de son hit sur Xbox Live Arcade pour 800 points Microsoft et compte bien en faire profiter les utilisateurs de PlayStation 3, iPhone et iPad.
Karateka.
Or Sega Genesis. And then eventually we started getting,
Pier Solar est un excellent jeu de rôle sorti en 2010 sur Mega Drive grâce à l'équipe de développement Magical Game Factory. Après un succès critique, les développeurs ont décidé d'adapter le jeu sur différentes machines comme la Xbox 360, le PC, iPhone, Android, mais aussi la Dreamcast. Cette nouvelle version possédera des graphismes revus en version haute définition. Pour financer le jeu, Magical Game Factory a décidé de lancer le projet via Kickstarter et espère récolter 139 000 $ pour fournir le jeu en décembre 2013.
But right now, we got like the unlimited power.
Nintendo a sorti fin 2011 un magnifique ouvrage à l'occasion des 25 ans de la mythique série Zelda, sous le nom de The Legend of Zelda Hyrule Historia. Malheureusement, il était réservé au territoire nippon. Bonne nouvelle, un accord a été passé entre Dark Horse Books et Nintendo pour une traduction en anglais et une sortie en Amérique du Nord, Australie et Royaume-Uni. Cette édition de plus de 200 pages vous fera voyager à travers l'histoire, la chronologie, et vous fera découvrir des images exclusives, ainsi qu'une bande dessinée et une introduction signée par le designer de la série, Shigeru Miyamoto. Espérons pour les anglophobes qu'une édition française sorte un jour chez nos libraires.
Qui se souvient des micro-machines, ces voitures miniatures qui permettaient de jouer dans des décors tout aussi miniatures ou sur la table pendant que les parents préparaient à manger? En 1991, Codemasters décide de sortir un jeu qui permettait de faire comme si on jouait sur la table. Et puis il a fallu attendre 1993 pour qu'en Europe sorte ce jeu sur tous les supports, sauf sur NES, bizarrement. En tout cas, aujourd'hui, dans son test, le MEA nous propose la version Mega Drive.
Dans le jeu vidéo, tout y est passé. Les Schtroumpfs, Musclor, même une boisson nommée Cool Aid sur Intellivision. Et c'est pourquoi, lorsqu'en 1991, la boîte Codemasters décida de sortir un jeu adapté des micro-machines, ces petites voitures tellement mignonnes, eh bien personne ne fut étonné. Faire un jeu d'un jouet, il fallait oser. Et si nous, pauvres Européens, nous n'avions pas eu droit à la version NES, heureusement, en 1993, le jeu sortit sur quasiment tous les supports, et ici, sur Mega Drive. Et si le concept est tout bête, faire des courses dans les décors du quotidien en respectant l'échelle des voitures, nos charmants développeurs de Codemasters y ajoutèrent également tout plein de petites nouveautés. Déjà, détail tout bête, nous pouvons choisir notre perso. Certes, c'est rempli de stéréotypes entre Spider, le rocker au grand cœur, Sherry, la blonde peroxydée, mais il y a Walter, le Numanomaillé. Et certes, ça ne change strictement rien au style du jeu, mais l'effort est là. Dans le jeu à un joueur, nous pouvons alors faire des tournois avec une phase de qualification dans le bain, carrément, puis choisir nos concurrents qu'on décimera au fur et à mesure du jeu. Les décors sont super sympas avec la table de la cuisine et la route en chérios, le garage de papa avec ses outils partout, la salle de classe, le billard, le jardin avec son sable, et chaque décor possède ses propres singularités avec quelques sauts, de l'eau et ses propres véhicules, car oui! En plus, ils y ajoutent un aspect collectionniste, comme les jouets d'origine, où tout au long des courses, nous débloquons des véhicules particuliers, avec chacun son propre style de conduite, dont un fameux mastodonte pour les scènes bonus, que je n'ai jamais réussi à finir dans le temps imparti, mais va conduire ce machin entre les flaques. Et en plus, on peut y jouer à deux. Bon, nous ne pouvons pas participer aux courses contre l'ordinateur en sus, mais ils ont également pensé à faire un mode de joueur intéressant. Outre le fait que le premier arrivé sur la ligne au bout des trois tours gagne, en plus, il faut que nos deux voitures restent dans le même écran. Ouais, éjecter une caisse en dehors de l'image, et c'est un point gagné. Une fois les points remplis d'une couleur ou d'une autre, eh ben le survivant est déclaré vainqueur. Alors certes, on pourra reprocher des fois un manque de lisibilité de la route, surtout sur le billard, là, des objets du décor semblant cloués au sol, surtout sur le billard, là, qu'il n'y a strictement aucune musique pendant les courses, et que quelquefois, eh ben, c'est stupide de perdre à cause d'une goutte de miel, ou d'avoir raté la montée sur la boîte de topise. Mais tous ces problèmes seront corrigés pour les suites, avec de plus la possibilité, ensuite, de jouer jusqu'à 8. Et oui, j'ai bien dit 8. Bref, c'est sûr que comparé aux suites, ce n'est pas le meilleur de la saga, mais Micro Machines, c'est quand même le jeu ayant tout lancé, et il serait dommage de passer à côté.
Ce mois-ci, dans le...
Hop, 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 Tom, je sais que t'as allé à RGC pour faire leur reportage, mais c'est moi qui présente l'émission. C'est par là la sortie. Non mais c'est incroyable ça, on se piquait sa place. Bon alors ce mois-ci, dans le dossier, en effet, on va parler de la Retro Gaming Connection, et oui, c'est Tom qui y est allé. Allez, on regarde leur reportage.
Les 10 et 11 novembre derniers se tenait en Seine-et-Marne la 6e édition de la Retro Gaming Connection, plus communément appelée RGC et organisée par l'association de Retro Gaming du même nom. Une centaine de participants s'étaient rassemblés pour jouer et partager leur passion du Retro Gaming. De nombreux stands permettaient de jouer librement à des consoles datant des années 80 jusqu'à nos jours. Nous pouvions aussi découvrir des matériels d'exception tels que le laser actif de Pioneer ou bien encore le micro-ordinateur Hector, machine française des années 70. Bien entendu, des consoles et des bornes d'arcade personnalisées étaient mises à disposition par des passionnés pour des passionnés. L'attraction principale de chaque édition est un tournoi organisé sur le week-end autour de trois jeux et d'un quiz. Cette année, les affrontements se déroulaient sur Micro Machine 94 sur Mega Drive, Windjammer sur Neo Geo et le Barouder sur Hector. Le premier prix de ce tournoi était une magnifique et atypique Vectrex, machine datant du début des années 80 et customisée aux couleurs de l'association RGC. La RGC rassemble chaque année un florilège de profils. Nouveaux passionnés, joueurs occasionnels ou confirmés, mais aussi des développeurs de jeux amateurs comme l'Alice Team. Il développe en effet depuis 2007 Dynamic Dreams sur Dreamcast, jeu multijoueur inspiré de Bomberman, qui a d'ailleurs été l'objet d'un grand tournoi à 32 joueurs. Dans un esprit de partage et de diffusion, la RGC est aussi l'occasion de participer à un mini vide-grenier, de quoi trouver la pièce manquante à sa collection, bien loin des tarifs surévalués proposés par Internet. Car le rétro gaming ne doit pas être un luxe, et les associations comme la RGC s'en tiennent garant. Si vous aussi, vous souhaitez vous évader le temps d'un week-end dans l'univers du rétro gaming, n'hésitez pas à vous y inscrire longtemps, mais alors très longtemps à l'avance. Vous pourrez alors profiter d'une très bonne ambiance, d'un accueil chaleureux, et bien sûr, vous en mettre plein les yeux.
Une nouvelle chronique dans le JT du Rétro Gaming, c'est la rubrique console. Tous les mois, vous découvrirez une console, son histoire, ses meilleurs jeux. On commence ce mois-ci avec la Sega Master System.
La Master System est une console bibitte produite par Sega et commercialisée en France au tarif de 1490 francs en septembre 1987, soit un an après sa concurrente directe, la Nintendo NES. La première version, au design très tranché, disposait de deux ports pour les manettes à deux boutons et pouvait lire soit des cartouches de jeux largement répandues, soit des Sega Cards pas plus grandes qu'une carte bancaire. Ce dernier support ne connut pas un franc succès et ne fut utilisé que pour 9 jeux. Deux jeux étaient préinstallés dans la Master System 1 et pouvaient être lancés directement sans insertion de cartouche. Hang-On, un jeu de course de moto, et Safari Hunt, un jeu de tir jouable au pistolet baptisé Light Phaser. Sa ludothèque contient beaucoup de bonnes rééditions de jeux d'arcade, ainsi que des titres qui ont su nous marquer à vie, comme R-Type, Wonder Boy, Afterburner, Bubble Bubble, et bien sûr les mythiques Sonic et Alex Kidd.
Allez, encore une nouvelle chronique, on a décidé de vous montrer tous les mois une vidéo du web. On regarde ça. Comme tous les mois, le Rétro Dico vous explique en 45 secondes un mot de l'univers du rétro gaming. Ce mois-ci, vous l'aurez compris, enfin j'espère, on va parler du Pong.
Aujourd'hui dans le Rétro Dico, Pong. Ce mot ne devrait pas interpeller les plus jeunes d'entre vous, mais les plus anciens se souviendront forcément de cet écran noir avec deux rectangles blancs qui s'agitent de haut en bas pour se renvoyer un carré. Simple mais addictif, ce concept reste même encore maintenant une référence du jeu vidéo. On dirige la raquette, même pas de bouton à presser, la balle rebondit et on espère que l'autre joueur ne va pas la rattraper. 15 points et c'est la victoire. Ce jeu de ping-pong, initialement développé par Ralph Baer et commercialisé par Nolan Bushnell, le créateur d'Atari, a été ensuite décliné par un nombre impressionnant de marques qui ont ajouté des évolutions comme la possibilité de changer à tout moment la taille de la raquette et la vitesse de déplacement de la balle. Atari vient de célébrer les 40 ans du Pong. Il faudra parier qu'aux 50 ans de l'ancêtre, nous serons toujours émus en nous renvoyant la balle.
Et voilà, c'est la fin de ce JT du Rétro Gaming, troisième du nom. Merci de nous avoir suivis. Le mois prochain, vous retrouverez bien sûr toutes vos chroniques, les deux nouvelles aussi bien évidemment. Et du côté du dossier, on ira à la Edge Convention 2.0. Si vous avez des infos, des news à nous faire passer, n'hésitez pas à un petit mail jt@retrotaku.com et le site internet de l'association retrotaku.com. Au mois prochain. Ciao.